pays disparu. Les États que l'histoire a rayés de la carte. Tiré du livre de Björn Berge, Atlas des pays qui n'existent plus, aux éditions Autrement. Heligoland. Heligoland, de 1807 à 1890. Population, 2200 habitants. Superficie, 1,7 km². Situé à 70 km du littoral nord-occidental allemand, les deux petites îles formant l'archipel d'Heligoland, Terre Sainte en français, sont vraisemblablement les seuls vestiges d'un territoire beaucoup plus vaste. À en croire l'œuvre ethnographique composée par Tacite vers 98 après Jésus-Christ, la Germanie, l'archipel s'étendait face à l'embouchure de l'Elbe, accessible par un petit détroit flanqué de rochers. Le mythe veut également que vers l'an 1000, Heligoland ait compté 9 paroisses et 2 cloîtres. Tout au long de son histoire, la mer du Nord n'a cessé de grignoter les petits morceaux de terre qui émergeaient de ses eaux. Parfois, elle en a carrément englouti certains, comme lorsqu'une violente tempête a à jamais divisé en deux l'île de Heligoland en 1720. La plus petite partie, d'une, s'est réduite à un simple banc de sable. La plus grande, avec une superficie de presque 2 km² et un point culminant à un peu plus de 60 mètres, a continué de vivoter sous la forme d'une croûte rocheuse de grès continuellement menacée par le ressac du nord-ouest qui fouette ses falaises. Au premier coup d'œil, Heligoland semble dépourvu de valeur. Cependant, du fait de sa position stratégique, au large des puissants ports de la Hanse et des grands fleuves allemands, l'archipel a toujours été très convoité. Repère de pirates au début du XVIe siècle, il prend ensuite de l'importance en tant que lieu de pêche et de pilotage maritime pour les bateaux. Occupé au fil des siècles par la Suède, puis tour à tour par certains duchés allemands et le royaume danois, la marine anglaise l'annexe en 1807, sans rencontrer de résistance après que le Danemark a conclu une alliance avec Napoléon. Pour les Britanniques, il s'agit d'un territoire essentiel afin de maintenir leurs relations commerciales avec le continent européen. Avec sa garnison de 500 soldats anglais, l'île se transforme en un centre d'espionnage des forces napoléoniennes. Une activité importante depuis que le territoire français occupe sur sa façade nord la totalité du littoral, de la Bretagne jusqu'à la mer du Nord. Le pilotage, naguère tombé en désuétude, retrouve son apogée d'antan. Les marins, capables de naviguer les yeux fermés, connaissent désormais les moindres bancs de sable à éviter pour ne pas sombrer et peuvent atteindre les ports de Brunsbüttel, de Cuxhaven et même de Glückstadt sur la rive de l'Elbe. Qu'un problème, pas de problème. En 1850, la fille d'un officier anglais publie un opuscule intitulé Heligoland. Et elle a dû être une femme bien secrète, car son nom complet n'apparaît nulle part, ni sur la couverture, ni ailleurs, anonymisé et réduit à la simple forme de M.L'E. Si dans un premier chapitre, elle raconte son souvenir d'enfance sur l'île, où elle passe 4 ans au tournant de la décennie 1820, elle consacre la majeure partie du livre à raconter une destinée familiale tragique. La mort de son père au moment de quitter l'île en 1821, enterré à côté de son épouse, décédée quelques semaines plus tôt, tous deux emportés par une pneumonie. L'ouvrage, un succès puisqu'il connaît jusqu'à 6 réimpressions au Royaume-Uni, relate aussi une jeunesse paisible sur cette île où les familles d'officiers bénéficient de conditions de vie idéales, dans de petites maisons avec cuisinières et domestiques. Le bateau postal apporte 2 fois par semaine viande fraîche, farine, flocons d'avoine, pois et riz. Tant et si bien qu'une famille modeste s'en sort relativement bien. De plus, Grâce à la contrebande qui permet aux marins de l'île d'échanger des articles coloniaux britanniques contre des produits du continent allemand, les insulaires ont accès aux denrées exotiques. Miss Lestrange, son nom réel en fait, évoque également les deux villages de l'île principale. Oberland, situé sur un plateau au bord d'une falaise orientée au nord-ouest, et Hunterland, avec sa plage de sable et son débarcadère au sud-ouest. Le port et les pontons sont réservés aux plus gros navires, tandis que les bureaux de pêcheurs doivent être halés jusqu'au rivage. L'habitat compact se compose de petites maisons érigées sur 3 ou 4 niveaux, au gré de ruelles étroites. À l'inverse des habitudes architecturales frisonnes, où les maisons sont en pierre et coiffées de toits aux tuiles rouges, elles sont ici en bois, puisque le grès est un matériau trop incertain et que tout doit être transporté depuis le continent. Et les tuiles sont lourdes. La vie quotidienne s'organise principalement autour d'un escalier reliant les deux villages, où les hommes musardent en fumant le cigare ou en bavardant, tandis que les femmes s'activent dans un sens ou dans l'autre avec des panières et de lourds seaux d'eau, ou partent traire les chèvres et les brebis qui paissent sur le plateau. Invariablement vêtues d'une jupe longue, écarlate, elles se couvrent en hiver d'une seconde jupe, plus courte, ayant pour particularité de pouvoir être abattue sur la tête et nouée si fermement que seul le nez et les yeux sont visibles. Les hommes portent des vêtements très épais, dont un pantalon si large qu'il ressemble davantage à une culotte, une chemise fermée par d'énormes boutons en bois, mais grand ouvert sur la gorge, et enfin, un petit bonnet serré au sommet de la tête. Quand les habitants se croisent dans la rue, ils échangent un « bonsoir » et au moment de se quitter, un « ne m'oubliez pas », la plupart du temps en « Allanderspreek » ou « Heligolandais ». Ce dialecte frison, dont la spécificité est de féminiser les prénoms féminins par une terminaison avec la voyelle « o », Caterino, Anno, Mario. La tranquillité quotidienne et routinière est tout juste interrompue deux fois l'an, au printemps et à l'automne, au moment de la migration des grives, des étourneaux et des bécasses qui observent une halte sur l'archipel. Là, les insulaires délaissent leurs travaux pour partir à la chasse. Jeunes et moins jeunes, hommes et femmes se munissent de filets, de pelles et de pioches. Direction le plateau et les bancs de sable. Les guerres napoléoniennes constituent une période faste pour les Heligolandais. Mais la signature du traité de Kiel en 1814 correspond également à la suppression de la contrebande. Et, lorsque les soldats anglais quittent définitivement l'île en 1821, les activités commerciales connaissent elles aussi un arrêt brutal. Les entrepôts sont vidés, les marchands partent tenter leur chance ailleurs. 2200 personnes vivent alors sur l'île, et nul n'a le désir de partir. Jusqu'à ce que le menuisier Jacob Andersen Siemens, résident de Heligoland, ait l'idée probablement folle de miser sur le tourisme thermal. Il ne s'agit cependant pas d'une lubie. Quelques années plus tôt, des médecins anglais ont conclu que les bains d'eau salée, et surtout froide, ont des vertus curatives inestimables. Et si Heligoland possède une chose en quantité, de surcroît toute l'année, c'est bien l'eau froide et salée. Les habitants top là. Si 1826 ne voit que 100 curistes profiter du Seabad, station balnéaire, ouvert par Siemens en 1840, ce sont plus de 2000 visiteurs qui débarquent sur l'archipel, autant de touristes issus d'une bourgeoisie aisée venue d'Angleterre, de Prusse, de Pologne ou de Russie. Les conditions politiques qui régissent l'Europe au XIXe siècle ayant radicalement changé, Heligoland perd aux yeux des Anglais l'importance stratégique qu'il revêtait pendant les guerres napoléoniennes. Un peu comme s'il jouait au Monopoly, les Britanniques proposent en 1890 aux Allemands d'échanger Heligoland contre l'île de Zanzibar en Afrique de l'Est. Le marché est conclu et les Allemands modifient immédiatement le nom de l'archipel en Helgoland, sans le « i ». Ils y établissent une base navale qui aura une importance considérable aussi bien pendant la Première que la Seconde Guerre mondiale. Mais le tourisme et le thermalisme continuent de prospérer. Dans son autobiographie « La partie, le tout », le physicien allemand Werner Heisenberg raconte comment, à la faveur d'une cure prolongée en 1925 à Helgoland, cette île quasi dépourvue de plantes qu'il avait gagnée pour tenter de soigner son allergie au pollen et son rhume des foins, il a réussi à jeter les bases de la mécanique quantique. Dans les premiers soubresauts de la Seconde Guerre mondiale, l'île est entièrement bombardée par les raids anglais. Et à la fin du conflit, les Britanniques reprennent possession de l'archipel. Le paysage y est lunaire, jaunâtre, totalement mort, tout au plus utilisable comme champ de tir pour les militaires. Helgoland est réintégré à l'Allemagne en 1952. Hormis quelques cratères laissés par les impacts de bombes, les lieux sont dépouillés de toute trace historique. C'était Pays disparu, extrait du livre de Björn Berge, Atlas des pays qui n'existent plus, aux éditions Autrement.